Matière à penser, Serge Tisseron.
Matière à penser, des machines et des hommes. Ce soir, je reçois Benoît Labourdette, vidéaste et explorateur des capacités de nos téléphones mobiles. Bonsoir Benoît Labourdette.
Bonsoir Serge Tisseron.
Alors, au moment où tellement de gens disent que leur téléphone mobile les empêche de penser, vous prétendez qu'ils pourraient au contraire nous aider à penser, même aider nos enfants à penser. Alors, expliquez-nous ça, parce que je pense que ça paraît paradoxal à beaucoup de nos auditeurs.
Vous savez, le téléphone mobile, c'est un outil technologique, et c'est vrai que cet outil, comme n'importe quel outil, peut nous empêcher de penser ou on peut penser avec. C'est un choix, en fait, qu'on fait.
D'accord. Alors, je crois que ce choix, vous avez commencé à le réfléchir en vous opposant à la distinction traditionnelle entre ce qu'on appelle les images légitimes, souvent des images que nous achetons, des DVD, les films, des images pour lesquelles nous payons, ces images dites légitimes d'un côté, et puis les images qualifiées sans intérêt, sans valeur, et notamment toutes ces images aujourd'hui qui sont faites au téléphone mobile. Alors, je crois que cette différence a été très importante pour vous dans votre réflexion. Vous pouvez nous expliquer un peu ?
Oui, cher Serge Tisseron, je crois qu'il y a vraiment toujours eu une distinction entre, en gros, les images professionnelles que vous appelez légitimes et les images amateurs, les images que tout un chacun fait par lui-même. Et il y a plus qu'une distinction, il y a traditionnellement une hiérarchie entre les deux. C'est-à-dire que quand on est amateur et qu'on fait des petites vidéos ou anciennement des petits films, qu'on filme sa famille, etc., on se sent incompétent, enfin moins compétent que les professionnels. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le téléphone mobile, il est dans la poche de tout le monde fait des images, mais... on se sent pas légitime, on se sent pas, aussi bon qu'un professionnel qui va faire un film qu'on va voir à la télévision ou au cinéma. Et je crois que, bien sûr, il y a une pratique quotidienne de l'image. Finalement, on fait des images comme on parle, au quotidien. Mais l'image, c'est un langage et on peut... avec ces images, s'exprimer et construire des choses pour soi et pour les autres.
Oui, et alors je crois aussi qu'il y a un chercheur, un sémiologue, Roger Audin, qui vous a aidé dans cette démarche. En quoi est-ce que Roger Audin a aidé Benoît Labourdette à comprendre cette dynamique des images ?
Roger Audin, c'est donc un sémiologue qui a travaillé, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, qui a consacré sa vie de chercheur à la question des pratiques amateurs. Et ce qu'il a dit dans les années 80, en fait, il a dit il ne faut pas mettre de hiérarchie entre les images professionnelles et les images amateurs. Simplement, ce sont des images qui ne servent pas à la même chose, qui n'ont pas la même utilité. Les images professionnelles, à quoi ça sert ? Ça sert à nous divertir, ça sert à apprendre des choses, à nous faire raconter des histoires, à faire de la propagande, parce que c'est quand même un usage massif des images, bien sûr, de faire de la propagande, chose d'ailleurs qui était... explicite au temps de l'URSS, les cinéastes, vous savez, étaient propagandistes officiels et se revendiquaient comme tels, alors qu'aujourd'hui, on fait de la propagande sans le dire. Et à côté de ça, les amateurs, donc incompétents, qui font des images floues, etc. Mais en fait, une image amateur, par exemple, pour prendre un exemple dans la photographie, avoir des photos du mariage de ses parents, avoir des films ou des vidéos de soi-même quand on était enfant, etc. Toutes ces images, en fait, elles participent de la constitution de notre identité. On a besoin de ces images pour exister, en fait. Sans images, on a du mal à se représenter qui on est, sa position dans la filiation. Et d'ailleurs... avant la photo, le cinéma et la vidéo, il y avait la peinture. Je veux dire, la peinture, c'était globalement utilisé pour faire des portraits, en tout cas pas dans le champ religieux, dans le champ profane. Et du coup, ce qu'il a dit, ce que Roger Audin a dit, c'est ces images amateurs, elles sont constitutives de notre identité. Donc elles sont à prendre très au sérieux. Simplement, ce sont des images qui ont une fonction différente, elles ont une fonction identitaire. Et du coup, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, imaginez que vous avez filmé votre petit garçon, les premiers pas de votre petit garçon, mais il a marché, et puis vous avez sorti votre téléphone portable, et le plan, il est flou, on voit pas très bien, mais vous avez les images des premiers pas du bébé. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est pas important qu'elle soit nette ou qu'elle soit floue. On n'a pas les mêmes critères. Et donc, arrêtons de faire une hiérarchie entre les amateurs et les professionnels. Mmh. Les images amateurs, elles ont une véritable fonction sociale.
Oui, alors, Benoît Labourdette, vous parlez de ça tranquillement, hein, avec la voix apaisée, mais il faut se rendre compte que, quand même, on marche à contre-courant en disant ça de beaucoup de théoriciens de l'image ou pseudo-théoriciens de l'image qui ont dit que l'image empêchait de penser. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que non seulement l'image n'empêche pas de penser, même ces photographies réputées sans valeur n'empêchent pas de penser, mais elles peuvent, au contraire, nous inviter à penser, nous rappeler des souvenirs, nous inviter à voir le passé autrement, nous inviter à en parler, et donc elles sont finalement un support pour la pensée individuelle, mais aussi pour la socialisation, pour l'échange, ce qu'a bien montré l'engouement des images envoyées sur le net à partir de son téléphone mobile. Donc là, en effet, merci d'en parler calmement, mais il faut quand même signaler que nous opérons en disant cela une véritable rupture par rapport à une doctrine traditionnelle des images réputées, encore une fois, empêchées de penser. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même des images qui empêcheraient de penser et puis des images qui permettraient la pensée ?
Alors, ce ne sont pas les images en elles-mêmes, c'est ce qu'on fait des images. Je crois que ça c'est une question importante dans notre rapport aux technologies. Une technologie, elle n'est pas bonne ou mauvaise en elle-même, c'est ce qu'on en fait qui compte. Je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Serge Tisseron, sur l'exercice de la pensée. Et vous me demandez s'il y a des images avec lesquelles on pense pas, des images avec lesquelles on pense. Je pense que aujourd'hui, on a en gros la télévision, robinet à images, et Internet. Singulier robinet à images, parce que c'est un robinet à images qui est volontaire. On va chercher quelque chose, on va partager des choses ensemble, et puis on va produire du contenu. Du coup, il y a une dimension active dans Internet qu'il n'y a pas dans la télévision. Moi, si vous voulez, pour être très simple, je crois qu'il y a énormément de choses à investir, et on va en parler très concrètement de qu'est-ce qu'on peut faire.
Oui, voilà, parce que là, on pose un peu les bases de votre travail, les bases théoriques, mais si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'à partir de là, il y a toute une pratique autour de l'utilisation du téléphone mobile dont on va parler dans quelques minutes.
Absolument. Et du coup, on a vraiment des choses à faire avec les téléphones mobiles, avec ces caméras dans toutes les poches. C'est quand même extraordinaire le fait qu'on ait la capacité de faire des images tous ensemble et quand on veut. Alors je pense que avec la télévision on ne peut pas penser, je pense que là où il y a un gros problème, c'est dans le robinet à images, parce que on n'est pas actif là dedans Je voudrais dire une chose, quand vous parliez tout à l'heure d'une vision un peu négative qu'on aurait et contre laquelle on s'inscrit en faux, vous et moi, de l'usage actuel, contemporain des images, j'aimerais bien parler un petit peu de ça et notamment du rapport qu'on a aux jeunes. Il y a un rapport souvent assez négatif. Ah là là, ils sont complètement tout le temps sur leur téléphone, ça n'arrête jamais, comme si c'était une sorte de maladie ou d'addiction à la communication et à l'image d'une certaine manière. Je crois que c'est vraiment, il faut essayer de réfléchir un petit peu à ça et de réfléchir à soi-même. C'est-à-dire que moi, je suis père de famille, vous aussi. Nous-mêmes, on a fait des images de nos enfants. Et nous-mêmes, quand nous étions enfants, nos parents ont fait des images. Et du coup, là, j'invite les auditeurs à imaginer quelque chose. Je les invite. Pensez à votre père. Pensez quand votre père vous filmait. Est-ce que c'était agréable ? Est-ce que vous aviez pas l'impression qu'il était un peu frénétique et qu'il était tout le temps en train de filmer ? Et Sauf qu'à l'époque, les pellicules coûtaient cher. Et du coup, ils ne pouvaient pas non plus filmer jour et nuit. Parce que économiquement, si vous voulez, ce n'était pas possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, nos pères et nos grands-pères, en fait, ils avaient la même pulsion scopique, si on peut dire, que les jeunes d'aujourd'hui. En fait, ce que font les jeunes d'aujourd'hui, c'est la même chose que ce que faisaient nos parents. Ils ne sont pas pires, si vous voulez.
Et, c'est les outils qui les font le faire plus souvent et plus longtemps, mais ce n'est pas le désir que pouvaient avoir nos pères et nos grands-pères, qui l'auraient fait beaucoup plus longtemps si la pellicule, on leur avait donné.
Exactement, exactement. Et du coup, si vous voulez, je crois que ça, ce dont on est en train de parler là, c'est finalement, on prend un point de vue un petit peu de sociologue, de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que font les jeunes, notamment avec les images aujourd'hui? Et simplement, je crois qu'il est important de dire que ça n'est pas n'importe quoi, ça a une fonction. Et j'invite aussi les auditeurs à observer, je veux dire, à la terrasse d'un café, que font les gens avec leur téléphone? Pourquoi ils sont en train de se prendre en photo, de se filmer, de partager? C'est vraiment une façon d'exister les uns avec les autres. Et toutes ces images, elles circulent sur les réseaux sociaux. Elles se mettent en relation d'une certaine manière les unes avec les autres parce que c'est quand je suis sur Facebook, disons, je ne sais pas si on a le droit de dire, enfin, quand je suis sur un grand réseau social, qu'est-ce que je vois? Je vois l'image de l'autre.
Oui, c'est ça. Oui, les parents qui voient leur adolescent en train de se faire un selfie disent « ça y est, le narcissisme, il est en train de photographier ». Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que peut-être cet adolescent est en train d'échanger des images avec ses potes. Donc il y a toute une fonction de socialisation et de construction de la personnalité, de construction d'identité, comme vous disiez tout à l'heure, qui échappe complètement aux parents, qui ont une vision tronquée de ce que fait leur adolescent à ce moment-là.
Oui, et puis je crois que le selfie, c'est un très bon exemple. On a vraiment l'impression de quelque chose de frénétique et d'addictif. Moi, je pense que quand on est sur un réseau social en relation avec l'image de l'autre, on y voit notre image, on voit son image. Donc finalement, c'est l'image qui va modéliser la relation, hein, c'est normal. Et du coup, le matin, quand je pars de chez moi, bah, je m'habille, je me maquille, je me coiffe en fonction des gens que je vais rencontrer. Je vais pas m'habiller de la même manière si je vais dans une soirée avec des amis ou si je vais à mon travail. Du coup, je change d'image finalement, hein, chaque jour. Je décide de mon image chaque jour. Et je crois que le selfie, en fait, c'est comme un habit, c'est comme un maquillage, c'est simplement une modélisation, un choix pour être en relation avec les autres. Mais ça, il faut accepter que finalement, il y a une partie de notre vie qui se passe via les réseaux sociaux, en fait. Hein. C'est pas du tout virtuel, c'est notre vie réelle qui s'engage là-dedans. Et du coup, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a une partie de notre vie qui se passe à l'intérieur des images. Et finalement, c'est les images qui sont en relation les unes avec les autres.
Alors ça c'était, on a cité Audin, donc ça c'était vos réflexions des années 2000, hein, voilà, que vous actualisez aujourd'hui. Mais alors il y a quand même quelque chose qui s'est passé de manière très importante dans votre parcours, puis dans notre parcours à tous, l'année 2005. Alors, l'année 2005, il s'est passé deux choses fantastiques. La première, c'est que les téléphones mobiles ont intégré la fonction caméra. Alors, au début, ça paraissait un gadget. Faut pas oublier que les dernières publicités pour iPhone, elles mettent en avant la fonction caméra. Elles mettent pas en avant la fonction téléphone. Voilà. Donc, mais donc, quand c'est apparu, ça paraissait anecdotique. Vous, ça vous est pas paru du tout anecdotique. D'autant plus que la même année 2005, il est apparu YouTube. C'est-à-dire la possibilité de mettre des vidéos personnelles sur Internet et de les partager non plus avec quelques copains ou avec sa famille, mais les partager possiblement avec le monde entier. Alors cette année 2005, elle est importante pour ces deux raisons-là, et puis pour une troisième raison, puisque c'est l'année où vous avez fondé au Forum des Images à Paris le festival Pocket Film. Alors, parlez-nous de ce festival.
Déjà, je vous remercie, Serge Tisseron, de raconter l'histoire. Je crois que c'est toujours important de raconter l'histoire des choses, et notamment l'histoire des technologies. Et en effet, à partir de 2005, il y a un changement de paradigme qui, sur le moment, on se rend pas compte. Et le festival Pocket Film, c'était un festival consacré à la création de films avec téléphone mobile. Les caméras venaient d'apparaître dans les téléphones mobiles. En fait, les toutes premières, c'est décembre 2004. Enfin, c'est en janvier 2005 qu'on a pu acheter, c'était fort cher d'ailleurs à l'époque, hein, des téléphones mobiles dotés de caméras. Pourquoi d'ailleurs il y avait des caméras dans les téléphones mobiles? Pour une raison toute simple, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était pour vendre de la visiophonie. En fait, les opérateurs de téléphonie mobile à l'époque ont lancé le réseau 3G, le réseau de haut débit mobile. On sait que les réseaux Internet, qu'ils soient fixes ou mobiles, quand ils augmentent de débit, permettent d'inventer des nouveaux services. Les réseaux sociaux, par exemple, n'existeraient pas sans le haut débit. Donc, c'est très important d'augmenter les débits pour les commerçants, pour nous citoyens aussi, du coup. Mais pour les commerçants, que sont les opérateurs de téléphonie mobile, bah, du coup, ils ont lancé le haut débit mobile. Et d'ailleurs, je veux juste faire un petit point et je vais répondre à votre question, hein, vous inquiétez pas. Je vais faire un petit point... sur la santé. Parce que moi, du coup, je propose beaucoup d'ateliers, beaucoup d'actions avec les téléphones mobiles. Et on peut me dire, bah, vous êtes à la solde de choses qui nous font du mal à la santé. Oui, c'est très dangereux pour la santé. Et d'ailleurs, depuis 2005, comme il y a eu ce nouveau réseau à haut débit, on a doublé les antennes. Donc, oui, moi, c'est pas moi qui dirais que c'est pas dangereux pour la santé, les téléphones mobiles. Et quand je vois des téléphones mobiles dans les poches des adolescents, je suis un petit peu inquiet. Hein,
Ou sous l'oreiller, hein, puisque Benoît Lavaudette, il ne faut pas oublier que beaucoup d'études aujourd'hui alertent sur ces adolescents qui dorment avec leur téléphone mobile sous l'oreiller.
Ouais, et il paraît que c'est une très très forte proportion, hein, d'ailleurs.
Mais ils ne font pas des images pendant ce temps-là, donc, donc ça ne tombe pas sous le coup de ce qui nous préoccupe.
Jusqu'à temps que les téléphones captent les ondes cérébrales et produisent les images au réveil de nos rêves, ce serait pas mal, je ne sais pas. Donc du coup, il y a eu au départ le lancement d'une technologie dans un projet commercial, hein, tout simple, hein, qui était de vendre de la visiophonie. La visiophonie, ça a toujours été un petit peu un mythe. Hein, on le voit dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, les gens qui s'appellent en visiophonie. Et il se trouve que ça n'a jamais pris.
Hein. Oui. Mais c'est un mythe, c'est un fantasme extrêmement intéressant. C'est l'idée que, avec la technologie, on voudrait reproduire les conditions de la communication réelle. Donc les gens qui se parlent, comme vous et moi là en ce moment, ils se voient. Donc au téléphone, on va faire en sorte qu'ils se voient. Mais les concepteurs, les ingénieurs n'avaient pas pensé qu'au contraire, le grand intérêt du téléphone, c'est de ne pas se voir. Et que très peu de gens aujourd'hui utilisent cette fonction, enfin, sauf ceux qui la mettent en route souvent par hasard, voilà, sans l'avoir cherché, mais très peu de gens l'utilisent volontairement, parce qu'au téléphone, justement, on utilise d'autres manières de communiquer, les intonations de la voix, le fait que l'interlocuteur ne sache pas où on se trouve, parce que s'il voit notre visage, il peut voir aussi l'espace autour de nous, voilà, donc c'était vraiment une erreur grave autour des technologies. Les technologies ne sont pas faites pour créer l'équivalent de ce que nous avons sans technologie, elles sont faites pour ajouter des possibilités totalement différentes et pouvoir jouer sur différents registres de communication.
Oui, et je dirais même plus, grâce aux technologies, on peut inventer des nouveaux langages. Mmh. Et bien sûr, ça, on ne peut pas le prévoir, mais c'est là tout leur intérêt aussi. Si on prend le cinéma lui-même, parce que là, on est en train de parler d'images animées, donc de cinéma au sens large, c'est une technologie qui est assez récente. Hein. Le cinéma, il est apparu en 1895, ça fait même pas 130 ans. Et on voit à quel point l'image animée est centrale dans nos vies, dans les écrans, partout. Je veux dire, il y a une invention de langage qui a été faite à partir d'une technologie. Personne ne l'avait prévu. Les frères Lumière, ils n'avaient pas du tout prévu ça. Hein.
Alors vous, Benoît Lavaudette, est-ce que vous aviez prévu l'extraordinaire succès de la fonction caméra des téléphones mobiles?
Alors, moi, si vous voulez, mon raisonnement était le suivant. Au départ, ça a été une opportunité. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Le Forum des images a eu l'opportunité d'un partenariat avec un grand opérateur de téléphonie mobile français. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques ou pas. Alors, j'essaie de ne pas le faire. Et qui était donc partenaire et qui lançait donc ces nouveaux services hein, dont je parlais juste avant. Et il y avait à la direction de cette grosse société quelqu'un qui avait envie de faire des partenariats avec des institutions culturelles, de pas être uniquement dans la publicité, qui a eu cette intelligence-là. Et du coup, qui a dit, bon, bah voilà, ce serait bien de faire quelque chose. Moi, j'arrive parce que sur ce sujet, j'étais un petit peu le seul à réfléchir déjà, à avoir cette ouverture à la pratique amateur, à la prendre au sérieux, en fait. Et donc, on a conçu le festival Pocket Film, qui était donc un festival consacré à la création de films avec téléphone portable. Sauf que les films n'existaient pas quand on a créé ce festival. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment au plus haut point, c'était d'accompagner par des actes culturels, par du partage de créativité, par de la recherche, par des actions, de l'invention, d'accompagner une technologie en train d'arriver, qui était la caméra dans les téléphones mobiles, mais de l'accompagner avec de la culture, avec de l'esprit critique, avec de la réflexion, avec de la créativité, avec du partage, vous voyez. Et ça me semble extrêmement important quand une nouvelle technologie apparaît, non pas de la rejeter en bloc parce que c'est une forme de passéisme, c'est difficile de lutter contre l'existence des nouvelles technologies, mais de garder son esprit critique, de travailler son esprit critique de façon ludique. Et du coup, voilà, le projet de ce festival, c'était d'éclairer finalement et de s'amuser à créer des choses avec les caméras dans les téléphones mobiles.
Alors vous aimez jouer avec l'image, vous aimez jouer avec le téléphone mobile, mais je crois que vous aimez jouer aussi avec la musique, et il vous arrive même d'en composer. Alors on va en écouter un petit extrait. Ben alors ça me rappelle des choses. Vous faites ça avec quel genre d'outils, Benoît Labourdette? Puisqu'on parle des outils, vous utilisez quel outil pour faire cette musique-là?
Eh bien, écoutez, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup manipulé des synthétiseurs analogiques avec des boutons, et on travaille la forme d'onde sonore. Et aujourd'hui, on a des modélisations numériques de synthétiseurs analogiques fantasmés à l'époque qu'on ne pouvait pas construire matériellement, et aujourd'hui on peut les construire à l'intérieur des ordinateurs, donc c'est assez passionnant aussi ces objets-là.
D'accord, donc ça permet aux gens aussi qui font des petits films de fabriquer facilement leur propre musique.
Oui, et ça c'est un point, parce que rentrons dans la pratique, voilà. Serge Tisseron, rentrons dans le concret, dans la fabrication. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que si vous en êtes d'accord, on va donner peut-être des trucs et astuces pour faire des films.
Les auditeurs vont être intéressés.
Et la musique, vous en parliez, c'est vrai que c'est un point important. Souvent, les gens qui font des films, je veux dire de leur propre chef ou dans le cadre d'ateliers à l'école ou dans des centres de loisirs, des maisons de quartier, vous voyez, toute cette pratique amateur qui est très riche et très vivante, souvent les gens ont tendance à prendre des musiques connues parce que ils ont l'impression que ça va valoriser leur film. Et en fait, d'une part, ça peut bloquer la diffusion du film parce qu'il y a quand même les droits d'auteur qui existent, et que même quand on met son film sur YouTube, alors je dis YouTube à la française parce que si vous dites YouTube à des ados, ils vous rient au nez parce que le mot français c'est YouTube. Et du coup, la musique, vous mettez votre vidéo sur YouTube avec la super musique de Michael Jackson, elle va, au bout d'une semaine, elle va être automatiquement supprimée.
Par le serveur qui veut éviter des problèmes avec les droits d'auteur.
Voilà, par la gestion des droits d'auteur. Et en plus, une musique très connue, elle est écrasante parce que comme on la connaît, elle est référencée à plein d'autres choses. Peut-être cette musique, je me souviens, c'était la soirée avec mon premier slow. Donc le petit film, je me souviens de mon premier slow et du coup, je n'arrive pas à accrocher au film. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils de création musicale sont aussi extrêmement accessibles. Et il y a d'ailleurs sur les téléphones mobiles eux-mêmes beaucoup d'applications très bien conçues de composition musicale et vraiment c'est accessible à tous. Donc moi j'invite vraiment les gens qui font des films à composer eux-mêmes leur musique ou alors à chercher des gens. Il y a aussi des musiques libres de droit. Enfin, il y a toute une dimension du partage, si vous voulez, qui est importante pour les amateurs.
Voilà, ça c'est très important. L'idée que, oui, on peut faire tout seul son film, mais que c'est encore mieux quand on s'y met à plusieurs. Alors ça, c'est cette idée du partage, on va en parler. Alors il y a deux choses qui m'ont paru importantes dans votre travail, Benoît Labourdette, c'est l'importance du partage et puis aussi l'importance du corps, la présence du corps, la participation du corps. C'est vrai que le téléphone mobile, Pocket Film, on a le téléphone mobile dans la poche, mais on peut dire aussi que c'est un prolongement de la main. Hein, voilà, on filme pratiquement avec sa paume, avec son index, mais on n'a pas encore une petite caméra. Tout le monde, tout au moins, n'a pas une petite caméra à se fixer au bout de l'ongle, mais en tout cas, avec le téléphone mobile dans la main, c'est comme disaient les futuristes russes, hein, voilà, c'est la main qui devient un outil de captation d'image. Donc l'importance du corps, l'importance du partage, et comment est-ce que ces deux aspects s'articulent dans les ateliers que vous mettez en place, Benoît Labourdette, puisque on en vient maintenant au fameux atelier, hein, voilà, dont, puisque si vous êtes un théoricien d'image, vous en êtes aussi un praticien.
Alors, oui.
Et un pédagogue.
Merci, Serge Tisseron. Moi, j'ai toujours envisagé ma pratique artistique parce que je réalise des films, pas mal de films, qui sont d'ailleurs partagés sur Internet, qui ne sont pas fermés. Et j'ai toujours envisagé ma pratique artistique avec la dimension du partage, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des films, mais j'ai toujours montré les films, mes propres films et ceux des autres. Et de ce fait, j'ai aussi toujours proposé à d'autres personnes de faire des films. Donc, en effet, c'est de la pédagogie, mais c'est aussi une simple transmission. Tiens, tu voudrais pas faire un film, tout simplement, en fait. Et donc, du coup, et là, on va parler plutôt de ma pratique pédagogique. Elle s'opère dans différents contextes. Hein. Je donne des cours de cinéma dans des grandes écoles de cinéma, comme la Fémis, le Frénois, Louis Dumière, les Saves à Toulouse, enfin, plein d'écoles de cinéma. Je donne des cours de réalisation de films avec téléphone mobile. Ça peut paraître un petit peu étonnant, parce que le téléphone mobile, on l'a tous, donc pourquoi on aurait besoin d'un cours pour faire des films avec? Je vais vous en donner plus de détails justement de comment on fait et quel est l'intérêt de creuser la pratique avec ces outils-là. Mais je travaille aussi dans ce qu'on appelle le champ de l'éducation aux images, c'est-à-dire dans le contexte scolaire, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités aussi, ainsi que ce qu'on appelle le hors-temps scolaire, c'est-à-dire les activités pendant des vacances, dans des centres de loisirs, etc. Et si vous voulez, moi, ma pratique, c'est à la fois d'animer des ateliers, et puis aussi de faire de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de projets où je vais accompagner, et d'ailleurs nous avons travaillé ensemble et nous travaillons ensemble, pas au quotidien mais quand même assez régulièrement, à des projets de formation professionnelle pour l'usage de la vidéo dans le champ de la citoyenneté.
Oui, on est associé notamment autour d'un projet qui vise à réduire les risques d'évolution vers le sectarisme par l'utilisation du téléphone mobile. Alors, si on a un peu de temps, on en dira quelques mots, mais là, parlons de tout votre autre champ, enfin tout votre champ plus général d'intervention.
Alors, je commence pas un atelier, parce que vous parliez du corps, et en effet, je pense que c'est très important. Souvent, un atelier, ça va commencer par un film collectif. On en a fait d'ailleurs ensemble, peut-être avez-vous envie de l'introduire, le film collectif, et ensuite j'abonderai.
Ben, le film collectif, oui. Alors, dans ce que vous faites, ce qui est formidable, c'est que chacun n'a pas son téléphone mobile pour filmer. Le téléphone mobile est un outil. L'un des participants dit, ben, tiens, on va utiliser mon téléphone mobile, voilà. Les autres mettent le leur dans leur poche. Et puis, ce téléphone mobile devient celui du groupe et il passe de main en main. Et chacun filme un objet, donne la parole à l'objet, quelques instants, 10 secondes, 20 secondes, une minute s'il a envie, et ensuite le passe à quelqu'un d'autre, de telle façon qu'il y a un travail collectif qui se fait sans forcément que chacun soit conscient de la manière dont il se fait. Mais lorsque le groupe visionne le résultat, on s'aperçoit qu'il y a eu du collectif. Je trouve ça formidable pour fabriquer un esprit de groupe. Alors, vous pouvez maintenant nous en dire plus hein, sur la manière dont ça se passe concrètement, peut-être, ou alors, sur les effets en général.
Oui, ce type d'atelier de réalisation de films collectifs, ça paraît simple et compliqué. C'est des choses que je peux proposer, par exemple, dans des médiathèques, à du public intergénérationnel. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes âgées. Et, par exemple, je vais dire aux gens d'apporter un objet important pour eux. Et puis... la commande que je fais aux personnes, c'est chacun va filmer son objet et va le faire parler. Par exemple, comme un film d'animation, quoi, comme un dessin animé où l'objet parle au spectateur et chaque objet va parler de son vécu d'objet. Et donc, ça amène les gens à un imaginaire, à développer un imaginaire, parce qu'un objet qui parle, faut inventer des choses. Donc, il y a cette dimension de l'invention, si vous voulez. Et par ailleurs, on le fait collectivement, le film, c'est-à-dire qu'on filme son objet, on le fait parler, et ensuite on passe le téléphone à son voisin, qui lui-même va filmer l'objet, son objet, le faire parler, et ainsi de suite. Du coup, parfois, vous savez comme moi, quand on passe le téléphone, si on ne fait pas attention, peut-être on va l'éteindre, etc. Et puis, le film, il sera d'un bloc, c'est ce qu'on appelle un plan séquence, un film tourné en une seule fois comme ça. Et donc je dis aux gens, ce film qu'on fait, et ça c'est quelque chose que je mets toujours en avant, ce film qu'on fait, on va le montrer. C'est pas pour nous, c'est on va le voir ensemble bien sûr, mais c'est pour le montrer à d'autres personnes. Et donc du coup, bien sûr, il faut donner de l'importance à son objet filmé, etc. Mais le passage d'une personne à l'autre, il fait partie du film. Donc si la caméra, elle se balade dans tous les sens et que l'image est floue quand on passe de l'un à l'autre, ça va pas être bien. Du coup, chaque personne doit s'organiser avec la personne qui est avant elle et la personne qui est après elle, de comment tu te places, comment tu me passes le téléphone, etc. Et du coup, il y a une écoute très forte, en fait, et très simple, parce qu'on a juste à s'organiser avec deux personnes et pas avec le groupe dans son entier. Et du coup, je leur dis, si jamais à un moment donné, il y a un bug, c'est-à-dire que il y a un problème, j'ai pas bien attrapé le téléphone, etc. S'il y a un problème, il faudra recommencer le film du début. Du coup, il y a, si vous voulez, une pression importante, c'est-à-dire que les gens n'ont pas envie de recommencer du début, donc il y a une écoute très forte les uns des autres. Et puis, ensuite, on regarde le film en grand. Et ça, c'est extrêmement important dans ce genre d'atelier, si vous voulez, qu'on soit dans des conditions, dans une salle noire. Et si elle n'est pas noire, le groupe de personnes, je vais les inviter à créer une salle noire, c'est-à-dire qu'on crée l'écran, si vous voulez, pour que les images aient de l'importance. Je crois qu'il y a tellement d'images que c'est important de s'arrêter sur les images. Et du coup, on regarde ensemble, en grand, ces objets qui étaient tout petits, si vous voulez, et qu'on voit en énorme, et qui parlent, qui s'adressent les uns aux autres. En plus, on n'avait pas forcément bien entendu, parce que c'est un groupe de personnes, on n'avait pas vu. Souvent, on ne voit pas forcément quel objet la personne filme. Et du coup, évidemment, quand on fait ça, les gens font parler les objets, mais c'est d'eux-mêmes qui parlent.
Alors ça, Benoît Labourdette, c'est ce qui m'a le plus impressionné dans les films que j'ai vus. Hein. Ce que j'ai vu était réalisé par des adolescents, souvent déscolarisés, on voit déscolarisation. Et j'ai été très étonné de voir l'importance de leur rage, de leur souffrance, de leur colère dans ces petits films. Ceux qui filment des Kleenex en donnant la parole au Kleenex. Kleenex qui se plaint que après l'avoir sali, cette mouchette dedans, on le jette. Ceux qui donnent la parole à des chaussures qui se plaignent d'être trimballées partout sans qu'on leur demande leur avis. Et puis même qui avait donné la parole à un stylo en disant que le stylo aimerait bien pouvoir écrire ce qu'il a envie d'écrire et ne plus toujours écrire ce qu'on l'oblige à écrire. Voilà. Et j'ai trouvé ça formidable qu'avec un moyen aussi simple, finalement, des émotions que ces jeunes éprouvent et qu'ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés, pour ne pas dire dans l'impossibilité complète de les formuler dans la vie quotidienne, hein, sauf à travers des stéréotypes verbaux dans leur groupe, ben, tout d'un coup, ces émotions s'expriment de façon personnelle. Et lorsqu'elles s'expriment de façon personnelle, de cette façon-là, eh bien, après, en revoyant les images, individuellement et en groupe, ils se réapproprient ces émotions. Ils s'aperçoivent que c'est eux qui les ont formulées et qu'elles leur appartiennent. Et ils s'aperçoivent que d'autres dans le groupe ont les mêmes. Et ceux qui ont mis des mots plus riches sur ces expériences permettent à ceux qui ont moins de mots pour en parler d'utiliser les mots de leurs copains. Et donc je trouvais qu'il y a tout ce travail qui permet finalement à ces images de prendre du sens de la part de ceux qui les fabriquent, et puis de donner du sens aussi à l'ensemble des membres du groupe. Et c'est comme ça que vous voyez les choses aussi, Benoît.
Absolument. Et il y a aussi quelque chose qui est ces émotions dont on se rend compte qu'on a été capable de les exprimer parce qu'on est passé par la bande, par un objet, justement, par un support extérieur à soi. On se rend compte que les autres les reçoivent aussi. C'est-à-dire que finalement, on existe aux yeux des autres à travers cette médiation-là. C'est en effet très simple et très important. Et c'est un point de départ, hein, ces petits films collectifs. Il y a aussi une dimension très ludique. C'est-à-dire que souvent, si vous voulez, quand on demande à quelqu'un de s'exprimer, et notamment avec la télévision, c'est l'interview ou le micro-trottoir. Mais en fait, ça bloque énormément de choses. Parce que vous allez dans une banlieue et vous faites une interview, bah le jeune de banlieue, il a tellement vu d'images de la banlieue, il y a tellement de codes de représentation que, en fait, et c'est extrêmement étonnant de le voir, il va jouer le rôle du jeune de banlieue. Et du coup, c'est vraiment les images qui dirigent, en fait, hein, qui dirigent la vision qui n'est du coup plus du tout réelle, en fait, du monde. Et en se décalant, en travaillant le langage cinématographique de façon exigeante, parce que quand on filme un objet et qu'on lui donne une voix, en fait, on sépare image et son. C'est du montage d'une certaine manière. Sauf qu'on le fait dans un moment de plan séquence où on fait tout en même temps, mais en fait, on fait du montage, c'est-à-dire que on invente un son par rapport à une image. On n'est pas dans quelque chose de prosaïque, si vous voulez, et de réaliste, si j'ose dire. Et du coup, cette dimension ludique, cette dimension d'imaginaire, je crois que c'est quelque chose que ces outils-là nous permettent de mobiliser. Et en plus, vous savez que l'écrit, malheureusement, est quelque chose de très, très fortement discriminant dans notre société, parce que il faut le dire, c'est pas moi qui le dis, hein. Malheureusement, on a en France un système scolaire déplorable, hein. C'est l'ONU qui nous le dit régulièrement, hein.
Oui, les enquêtes PISA.
Voilà, c'est pas un point de vue partial. Et du coup, ben, malheureusement, l'école, à travers le langage, fabrique de l'exclusion, même si c'est pas volontaire, évidemment. Mais c'est ce que ça fabrique. Et du coup, passer par l'écrit pour l'expression, c'est interdire finalement à un certain nombre de personnes de s'exprimer. Donc s'ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas exister. S'ils peuvent pas exister, ils existent quand même. Donc il faut bien qu'ils se rattachent à quelque chose. Oui. Et c'est là qu'il y a les questions de radicalisation et autres, et dont on parlera peut-être un peu plus en détail. Et du coup, l'image, commencer par l'image, faire un film, s'exprimer à travers un film, sans qu'il y ait eu un scénario préalable, inventer quelque chose sur le moment, ça permet de réinvestir sa parole, en fait, hein, et c'est l'image pour la parole. Souvent, très souvent, dans des ateliers comme ça avec des adolescents, il y a des adolescents qui disent « Mais moi, j'ai rien à dire. Je ne peux rien dire. » Et je dis « Mais c'est pas toi qui dis. Tu inventes quelque chose. C'est l'objet qui parle. Tu imagines quelque chose. » Et du coup, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire. Et en fait, peu à peu, on le refait plusieurs fois, ils prennent confiance. Et peut-être, sur le moment, ils ne savaient pas du tout. Et le téléphone leur arrive en main, ils se sentent perdus, ils ne savent pas. et paf, ils ont une idée qui leur vient et qui sera importante et qui peut-être fera rire les autres ou touchera les autres, et ils s'en rendent compte. Et du coup, c'est vraiment ouvrir des espaces à l'expression, proposer une confiance mutuelle dans le groupe. Et ça, c'est extrêmement puissant en termes de construction identitaire, en fait.
Oui. Et vous parlez de ces jeunes qui sont fâchés avec l'écrit, en effet, mais beaucoup, hélas, sont aussi fâchés avec le langage. Ils ont l'impression que le langage, c'est fait pour ceux qui savent parler. Et c'est pas qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est qu'ils ont... Ils sont plutôt soucieux d'aligner ce qu'ils peuvent dire sur le plus petit commun dénominateur de leur groupe, parce que en rupture scolaire, en rupture familiale, qu'est-ce qui leur reste, leur bande. Et donc, du coup, le langage est utilisé de leur part pour affirmer leur allégeance à leur bande. Donc, ils répètent en boucle la doxa de leur bande. Et c'est vrai que lorsqu'on leur propose, lorsqu'on les surprend, lorsqu'on les déroute, même, je dirais, avec ces images tout d'un coup qu'ils filment et ces objets auxquels ils sont invités à donner la parole, ils se découvrent eux-mêmes comme capables de dire des choses et de formuler des émotions, notamment qu'ils ne se seraient pas cru capables de formuler.
Et du coup... Il y a le film collectif, c'est une forme d'entrée en matière qui donne, quand on le voit, aussi quelque chose d'assez fort, c'est ensemble, on a fait un film. On a fait un vrai film, parce que j'ai omis de le préciser, je donne pas tous les détails. Il y a un titre au début, il y a un générique à la fin, et on le filme aussi. C'est-à-dire que c'est pas une vidéo amateur comme ça, où c'est des amis qui sont en train de se filmer, c'est un vrai, entre guillemets, film. Et ça... Je crois que c'est quelque chose qui est important de préciser aux gens, c'est que finalement la caméra, c'est comme le stylo. Ça n'est qu'un outil. Et en fait, bien sûr, on peut utiliser la caméra au quotidien pour filmer ses amis, etc. C'est très bien, c'est très très bien. Mais comme avec le stylo, on peut aussi utiliser la caméra pour s'exprimer, pour avoir un projet, pour construire une forme qui va proposer des choses aux autres. Et du coup, ce cadre-là sort complètement du quotidien. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'avec un outil du quotidien qui est le téléphone mobile, on va pouvoir faire un acte qui est créer quelque chose d'imaginaire, qui est complètement hors du quotidien et qui va être donc très, très fort.
Oui. Et finalement, on revient un petit peu à ce qu'on évoquait au début de l'émission, hein, les images qui empêchent de penser, les images qui favorisent la pensée. Là, ce que vous êtes en train de nous dire, Benoît Labourdette, c'est que ces images qui favorisent la pensée, elles sont accompagnées. Elles sont accompagnées par l'animateur, elles sont accompagnées par le groupe, et elles permettent en effet à ceux qui les fabriquent, dans un deuxième temps, d'emblée de mettre des mots, et puis dans un deuxième temps, de les partager, de les commenter ensemble. C'est pas que des images pour soi, ou pour des copains possibles sur YouTube, c'est des images pour le groupe en présence physique de participants.
Oui, et c'est pourquoi dans le cadre de ces ateliers-là, il y a quelque chose de très important, c'est que les jeunes qui participent, on les invite à organiser les projections de leurs films, leurs parents.
On espère qu'on aura l'occasion d'en voir. Merci beaucoup, Benoît Labourdette. Merci de cet échange avec vous.
Merci, Serge Tisseron.
Rappelez-vous, les objets sont au cœur de nos économies affectives. Matière à penser, Benoît Labourdette, Daphné Abgral, Emmanuel Morse-Duncan, Anne-Pascale Desvignes et Serge Tisseron.